Vous avez parlé beaucoup de, finalement, l'allocation à des grandes firmes, des grands comptes, des grandes entreprises. On voit un autre phénomène arriver aussi, c'est la concentration d'hôtels, de start-up, de toutes petites entreprises. Enfin, je crois qu'il y a un exemple juste là, qui s'appelle la station F, hein, Xavier Niel a une expérience qui va bientôt ouvrir, là, donc je crois même dans quelques jours. Un commentaire là-dessus, par rapport à ces investissements-là?
Oui, je peux. Est-ce qu'on prend plusieurs questions?
Oui, on va pouvoir couper quelques
questions. Oui, je
vous écoute.
Oui. Bernard Garin, je viens de Rennes. Je prenais le train ce matin et je discutais hier avec un promoteur, Gibois, qui me parlait de trois tranches de 6000 m² de bureaux en train de construire autour de sur Eurorennes. Donc je suis assez d'accord, mais en même temps, je voudrais prendre un peu le contrepoint de votre vision et jouer un peu l'avocat du diable. J'ai été signataire avec la société ICAD, donc, d'un bail emphytéotique hospitalier sur Saint-Nazaire, donc une opération de 220 millions d'euros hors taxes de travaux, avec un loyer de 20 millions d'euros portant sur 30 ans. Et à vous entendre, je comprends que c'est finalement le grand capital, ou plutôt les fonds de retraite, donc les petits retraités qui déterminent l'ordonnancement des métropoles. Et moi, je voulais vous donner mon sentiment sur la cité sanitaire de Saint-Nazaire, qui a été, à mon avis, reconstruite parce qu'il y avait une volonté politique très forte, il y avait une nécessité d'améliorer l'hôpital. La localisation du bâtiment n'a absolument pas été en lien avec des préoccupations de gestionnaire d'actifs, mais simplement par le fait qu'on a mis, on l'a branché sur les quatre voies permettant à la patientèle de venir facilement. Donc je ne vois pas en quoi ICAD et les gestionnaires d'actifs qui étaient sur cette affaire ont influencé en quoi que ce soit l'évolution de la ville de Saint-Nazaire.
On prend une troisième question, et après tu réponds.
Oui, bonjour, David Marquet. Il se trouve que je suis promoteur chez InCity, donc j'ai observé votre démonstration avec plein d'intérêt. Ce que je peux dire d'ores et déjà, c'est que je partage énormément de vos analyses, parce que le constat que je fais au quotidien, c'est très exactement celui-là. Hein, l'immeuble de 17,50 m n'a pas de client, il faut qu'il fasse 18 mètres. Le point de vue du broker, même s'il est idiot, s'impose à vous jusqu'à ce que mort s'en suive. Et j'ai un peu de chance, c'est que je fais aussi d'autres immeubles que les immeubles de bureaux, donc j'ai des récréations de temps en temps, ça me soulage. Ce qui est très intéressant, c'est que la façon dont vous avez procédé dans votre analyse démontre bien que c'est une fabrication d'une histoire et d'une succession de décisions qui ont permis de mettre ça en place. Là où je suis inquiet, et je partage vraiment votre inquiétude, c'est quand on découvre que, quelle que soit l'excellente idée que vous pourriez avoir pour une décision immobilière, elle peut être détruite, complètement émiettée, ne résister à aucune contradiction, dès lors que vous allez vous retrouver contre un des avis spécialisés qui sont proposés au marché et opposés au marché. Et donc la vraie difficulté, c'est d'arriver à fabriquer des biens qui conviennent aux autres. C'est-à-dire qu'effectivement, un bien que vous ne voulez pas louer à la FNAC, mais à une société plus modeste et qui a elle aussi besoin d'être sur une localisation, on finit, c'est ce que vous appelez probablement la géographie spatialement sélective, on finit par ne pas y arriver. Et donc, on rapatrie des sociétés qui sont identiques à des endroits, avec des vraies préférences, et on évacue un certain nombre de sociétés ailleurs. Actuellement, il se passe un phénomène sur lequel je voudrais vous entendre, c'est l'intervention des élus, des urbanistes, pour tenter de conserver à tout prix, alors ici, les activités de faubourg, qui n'ont plus aucun sens sous le terme de faubourg, mais qui ont besoin d'être utiles pour la ville. Ici, ailleurs, les activités de commerce, ce qu'on appellerait le petit commerce, au détriment des grandes enseignes. Je voudrais savoir un peu si vous ressentez d'ores et déjà cette réaction, ou si vous pensez que c'est un épiphénomène que la puissance du rouleau compresseur financier va définitivement détruire.
Voilà, on va peut-être s'arrêter là.
Merci. Bonjour, Marie-Mal Faro, je travaille au port de Paris. Juste en complément de ce qui vient d'être dit, on a beaucoup parlé récemment de l'exemple d'Albi et du centre-ville d'Albi et du tissu commercial devenu complètement mort du centre-ville d'Albi, qui est classé au patrimoine mondial de l'humanité, qui a des atouts formidables, mais qui s'est fait détruire, notamment par le centre commercial qui était... Voilà, donc du coup, c'était en complément voilà, de cette question-là. Il y a un exemple...
C'est quel centre commercial ?
Je ne sais plus comment il s'appelle.
Oui, mais lequel ? Enfin, parce que du coup... Je vais répondre à ça.
Bon, en tout cas, il y a eu beaucoup de polémiques récemment sur ce sujet-là, et c'est effectivement pour rebondir sur ce que disait mon camarade.
Merci. Alors, je vais... Comme la plupart des questions sont liées, je vais répondre à celle qui l'est peut-être le moins tout de suite, c'est sur l'hôpital et le cadre. Vous avez remarqué que je ne l'ai pas fait rentrer dans les catégories d'investissement, parce que selon ces gestionnaires d'actifs, les équipements de ce type-là, hospitaliers, ministères, tous ceux qui ont des spécificités très fortes et qui sont construits sur le mode d'un PPP, relève d'une autre catégorie d'investissement. Donc il n'y a pas la même convention. Ça relève de ce qu'en France on appelle les PPP. Mais je ne suis pas d'accord avec le fait que les investisseurs ne font rien à ce produit-là. La principale chose pour eux, parce que ICAD, il investit, mais en fait, ça va certainement, je n'ai pas vu le contrat, mais ça doit être logé dans un fonds. Le fonds dans lequel il va y avoir des investisseurs qui vont arriver et qui vont pouvoir sortir assez rapidement. C'est toujours la même chose, ce sont les investisseurs, ceux qui apportent le premier capital au début d'un projet comme ça, on les appelle en greenfield, ils viennent y prendre le risque du début, puis très vite ils vont le revendre à des investisseurs qui sont en brownfield, c'est-à-dire quand il y a moins de risques, que la machine tourne, qu'il n'y a plus de problèmes, que des problèmes de gestion ordinaire. Et donc j'insiste sur le fait que les travaux qu'on mène sur les PPP, montre qu'au contraire, enfin que de la même manière, il y a des conventions, des attentes qui proviennent de ces gestionnaires d'actifs qui sont plutôt des grands équipements sur ce qui est produit. Alors ça peut être, c'est pas forcément en termes de localisation, ça peut être la manière dont il a organisé l'espace, ça peut être, il y a plein de dimensions, mais il est très rare quand même qu'un investisseur ne fasse pas un peu attention à travers les cadres à ce qui va être produit. Alors, ensuite, toutes les questions me paraissaient liées. Que l'on parle de l'hôtel d'entreprise ou de... je remets les choses en place. Ah oui, ou des effets de sélectivité. Le fait que certaines activités ne trouvent plus place dans les espaces centraux, qui sont les chaudrons, où se localisent les externalités positives. Je ne sais pas si tu l'as dit comme ça, Pierre, mais... Le centre et le péricentre de ces régions métropolitaines, c'est là où les agents économiques bénéficient le plus, pour ceux qui ont besoin de contact, de la centralité économique. Et effectivement, si on n'a plus qu'un type de filière qui produit l'immobilier et qu'elle n'est pas capable, pour tout un tas de raisons, d'accueillir certaines activités, on arrive à un paradoxe qui est vraiment passionnant, qu'on observe en région francilienne, qu'on a documenté à New York, qu'on a documenté à Londres, c'est que d'un côté, vous avez des gestionnaires d'actifs qui viennent rechercher un bout de ces externalités positives que captent, par exemple, les grands comptes à travers le loyer. Donc d'un côté, ils viennent chercher des externalités positives qui créent de la richesse, quoi, en soutirer un petit peu, en vendant un service d'immobilier. Mais dans le même temps, ils peuvent tendre, faut être prudent quand même, à limiter la capacité d'autres activités qui sont tout autant essentielles au fonctionnement ordinaire de la région métropolitaine, et donc à la productivité des grands comptes, ou des activités techno, c'est-à-dire que si on n'a pas un métro qui fonctionne, s'il n'y a pas des nounous, s'il n'y a pas des commerces, s'il n'y a pas d'artisans, tout ça, ça s'arrête de fonctionner, la machine ne tourne plus. Ce qu'on appelle l'économie métropolitaine ordinaire. Et donc il y a une espèce de tension entre ces deux types d'activités qui sont bien à l'œuvre chez les gestionnaires d'actifs. D'où des tentatives, notamment très souvent publiques, largement publiques, hôtels d'entreprise, pépinières d'entreprise, qui visent à essayer de maintenir, sous forme d'une espèce de logement social de l'entreprise, ses activités. Et qui essaient, il y a des exemples très intéressants à côté, là, on reste ensemble, soit de faire un peu de maîtrise foncière pour sortir ici une opération pour permettre à des activités qui sinon seraient évacuées de rester. Pareil dans les faubourgs. Hein. Donc vous voyez, il y a des tensions qui sont très fortes. Et c'est amusant parce que vous m'avez fait passer pour quelqu'un qui est contre le grand capitalisme. Ça, certainement, mais c'était pas l'objet. Non, ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est pas le grand capital. C'est des fonds de la retraite, c'est votre argent, c'est les classes moyennes et même moyennes inférieures pour certains, qui sont mobilisés par un groupe professionnel qui en a fait une activité de marché et qui, comme tout groupe professionnel, se dote de catégories d'actions. Donc ce n'est pas du tout un problème de capitalisme, c'est une modalité concrète de circulation de l'épargne et de sa rémunération. Voilà, donc c'est ce que j'essayais de qualifier. Donc, ah oui, ce que je voulais dire, c'est que, attention, cette convention, elle peut évoluer. Jusqu'à très récemment, les gestionnaires d'actifs étaient très, très peu enclins à loger des start-up. Mais il suffit qu'un marché, progressivement, se mette en place, qu'il y ait des intermédiaires qui fassent la relation avec les start-up. Il n'est pas impossible que, dans 5 ans, les espaces de coworking, les hôtels d'entreprise soient devenus une sous-catégorie de marché d'investissement pour ces gestionnaires d'actifs. Hein, il ne faut pas le considérer comme quelque chose de complètement figé.
Vous avez répondu à la moitié de ma question, notamment sur les PPP. Les PPP, je voulais savoir comment c'était quand même réfléchi, même si on sait à peu près ce que c'est. C'est un partenariat public-privé, donc c'est quand même souvent les collectivités qui sont à l'origine de ces mises en place, et notamment c'est sur des stades, donc des monuments, des équipements publics, merci. Et on voit bien quand même que, je pense que ce que disait la première intervention notamment, c'est souvent les hôpitaux, c'est de plus en plus des PPP, de plus en plus, je dis, voilà. Même si chez nous ça arrive tard, on sait que par exemple, en Angleterre, il y a plus de 10 ans qu'ils les ont mis en place. Chez nous, c'est des expériences qu'on fait de plus en plus, mais on voit bien quand même, on a un peu une vision. Moi, je voulais savoir surtout au niveau aménagement des territoires, comment c'était travaillé, et aussi au niveau financier, on voit bien que c'est compliqué. On engage quand même plus de 30 ans une collectivité, donc c'est de l'argent public qui est après géré par des entreprises privées, dans sa globalité. Voilà, donc je voulais savoir comment ça marchait vraiment, et surtout l'analyse qu'on peut en avoir aujourd'hui.
Ah, pour répondre peut-être du tac au tac, je ne suis pas sûr que toutes les questions portent sur les PPP, donc j'aurais compris que je ne suis pas un spécialiste. On a une thèse là, qui est sortie il y a 2 ans dans notre labo sur des PPP. Donc c'est une politique publique, j'insiste sur plusieurs niveaux encore une fois. Bien sûr, ce sont les collectivités qui vont contractualiser. Mais l'État central a été extrêmement actif pour créer ce marché. Il n'existait pas, il a été créé. Il y a eu notamment le rôle de la mission d'appui au partenariat public-privé, qui a été extrêmement actif pour contribuer à stabiliser les formes juridiques, mais aussi à aller chercher des investisseurs. Tout comme la dette souveraine n'a pas toujours été détenue par des fonds de pension, c'est la même chose ici. Hein. On a créé de toutes pièces un système de financement de l'équipement public. Sa rationalité, c'est souvent de dire, bon, un, les acteurs privés ont des compétences techniques qui fait qu'on les a plus en collectivité, donc il vaut mieux que ce soit eux qui construisent et gèrent au long terme. Tout ça peut se discuter, évidemment. Et puis, deuxièmement, dans un contexte où les collectivités, et l'État, mais les collectivités aussi, de fait, ne peuvent plus emprunter aussi facilement, ou ne s'autorisent plus à emprunter aussi facilement, eh bien, on va aller chercher de la dette auprès de fonds d'investissement au sein des partenariats dans lesquels vous avez trouvé FH qui va apporter la compétence technique, mais derrière, c'est toute une batterie de fonds d'investissement qui apportent des capitaux. Avec ce paradoxe quand même assez croustillant, c'est que la note des collectivités en termes de crédit est meilleure quand même que celle de ces fonds d'investissement, et que du coup le coût de la dette est plus élevé quand on passe par les PPP que si on empruntait directement soi-même, hein, quand on est État ou collectivité. Quand même, là, les vrais motifs, alors il y a un motif industriel, les groupes comme FH et Vinci savent mieux faire, mieux gérer, et ce n'est plus du ressort, c'est une conception sur la limite entre État et marché là qui est en jeu, hein, sur ce que doivent être les compétences d'une collectivité, donc ça devrait être externalisé, et puis par ailleurs un vrai enjeu c'est celui de la dette quand même. Ça a des effets, c'est-à-dire qu'on ne gère plus un hôpital quand on est collectivité dans la relation avec ses usagers. La gestion de l'hôpital est déterminée par le contrat de droit privé auquel les usagers et citoyens n'ont évidemment pas accès, c'est un contrat de droit privé. Hein. Et donc on est là sur des interactions, des percées de l'action publique sous le regard des citoyens à une action qui n'est plus que du droit privé, auquel cas on est entre parties. Jusqu'aux assemblées délibératives, délibérantes, hein, n'ont plus accès au contrat. Dans certains cas, seul le maire et son équipe sont sur la signature, la définition du contrat. Les assemblées délibérantes pouvant être mises devant le fait accompli, c'est arrivé dans nombre de cas où on leur demande juste d'accepter le partenariat. Partiellement.
Je vous reviens sur encore 2-3 minutes, aborder deux questions qui me semblent, enfin, que j'aimerais bien qu'on fasse rentrer là dans le champ de la discussion. La première question, ce serait une question sur la valeur. Les mécanismes que vous décrivez font rentrer les valeurs foncières dans l'orbite des valeurs financières et donc vous devrez logiquement avoir les mêmes. Obéir aux mêmes logiques. Et d'ailleurs, un certain nombre de choses que vous décrivez, la formation des conventions, le mimétisme dans la formation des valeurs, correspond, les mécanismes de bulle, etc., correspond absolument à ce que les théoriciens des marchés financiers et des valeurs financières décrivent sur la formation des valeurs financières. Donc, effectivement, il y a cette logique de bulle. On l'a vu au début des années 90, au début de ce mouvement. Est-ce que vous pensez que c'est susceptible de se reproduire? Comment se fait-il que ça ne se soit pas encore reproduit, alors que tout paraît être en place pour que ça arrive? Ça, c'est ma première question. Et ou est-ce que au contraire, il y a des espèces de fondamentaux, enfin, il y a dans le foncier cette espèce de graal de la valeur fondamentale que les opérateurs de marché n'arrivent pas à trouver dans les valeurs financières et que finalement le sol leur offrirait. Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, ça serait sur le logement. Donc bon, on sait que les investisseurs institutionnels ont quitté en France le domaine du logement des années 80. C'est une grande quête de les faire revenir parce que finalement, malgré les inconvénients de la financiarisation, le bailleur professionnel présente quand même des vertus par rapport au bailleur privé individuel. Et on peut discuter, non, mais je ne dis pas. Et donc, on voit aux États-Unis qu'il y a un retour des fonds sur le logement. Et est-ce que ça vous paraît possible à la fois, est-ce que c'est possible et c'est souhaitable?
Rapidement, parce que vous n'avez pas d'autre chose à faire aujourd'hui. Là, c'est le jeu. Ça m'ennuie. Quand même. Enfin, moi, je suis content d'être avec vous. Sur la bulle, alors je vais reprendre quand même, parce qu'il faudra aussi que je réponde à Pierre. Parce que je vais pointer une évolution là, dans l'aménagement, en particulier en Ile-de-France et autour du Grand Paris.
C'est pas
critique. Non, mais je pense qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer aussi de ce côté-là. De se financiariser. Alors, du côté de la bulle, donc on a des fonctionnements cycliques, c'est bien connu dans les marchés immobiliers. Il y a eu quand même un très fort ralentissement des investissements 2007-2008, là, après la crise, avant que ça reprenne un peu plus. Et on est de retour à des chiffres d'investissement à plus de 30 milliards par an, là, sur 2015-2016. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'investissements. au commissariat à la stabilité financière, qui est une instance créée par l'État suite à la crise de 2007, s'inquiète un petit peu, et publiquement, en disant est-ce qu'on n'est pas en train là, d'assister à la formation d'une bulle. Et l'industrie, à travers sa presse, notamment à travers des événements organisés par l'industrie, de dire non, on n'est pas du tout dans une bulle, il y a une croissance de l'emploi, on a surtout beaucoup d'obsolescence, et donc il faut renouveler le parc. Et alors, en fait, les deux discours ont certainement une valeur, parce que d'un côté, oui, on est sur une production et des valeurs qui sont toutes... On a un flux de capitaux extrêmement important qui pousse à la hausse des valeurs. On achète à des taux actuellement sur le marché immobilier d'entreprise dans l'espace central qui sont, je vous l'ai dit, pour certains négatifs. Hein. On perd de l'argent en achetant de l'immeuble, de l'immobilier, parce qu'on considère que c'est un stock de valeurs qui, au moins, ne devrait pas disparaître. Donc il y a bien, il me semble, un effet de surproduction qui est dopé par les prévisions de croissance du chantier du Grand Paris Express, où là, si on met en œuvre le dixième de ce qui est prévu, soit par les SGP, soit par les contrats de développement territoriaux, on serait déjà en surproduction en réalité. Donc il y a bien des effets qui poussent à la bulle, mais en même temps, l'industrie a plutôt raison lorsqu'elle dit il ne va pas y avoir de crise parce que tout est en train de devenir obsolescent. Par définition, dès lors que les investisseurs n'investissent plus dedans, ne veulent plus en être propriétaires, on a très peu de marché derrière, d'autres types d'acteurs, pour se porter propriétaire, et on se retrouve avec des friches tertiaires par exemple, qui fait que l'action publique va se retrouver à nettoyer derrière. Chicago, c'est particulièrement spectaculaire, on a un bouquin qui est sorti l'année dernière, 2015 pardon, qui montre comment la collectivité d'un côté donne du droit à construire pour les investisseurs qui sortent la fameuse Trump Tower, qui domine Chicago, et dans le même temps est en train de nettoyer le classe C, le classe B, qui a d'obsolescent simplement le fait qu'il n'y ait plus d'investisseurs, c'est encore des immeubles tout à fait vivables, quoi, et qui seraient transformables. Donc il y a un effet de nettoyage, donc la bulle continue, n'en est pas une, tant qu'il y a des circuits derrière qui nettoient, mais qui évidemment ont tendance à être plutôt public pour un coup, quoi. Deuxièmement, le logement, ce qu'on observe là, alors aux États-Unis, les investisseurs ont toujours investi dans le logement, hein, dans les appartements multifamiliaux, c'est-à-dire en collectif de centre-ville. Il y a des fonds de pension, là, des fonds d'investissement, les REITs, qui ont une partie d'exposition à du logement. Donc on n'a pas eu connu la même sortie du logement qu'en France. C'est très spécifique, hein, les stratégies au sein d'un pays. Par exemple, en Suisse, on n'hésite pas à faire du bureau et du commerce en pied d'immeuble. Hein. Ce sont vraiment des conventions qui sont reproduites et qui pourraient évoluer. Par contre, ce qui apparaît aux États-Unis, c'est des fonds d'investissement très spéculatifs comme Blackstone, qui le fait aux États-Unis, en Irlande, en Grèce et en Espagne, qui rachète les maisons sur un marché déprimé, donc on est sur des maisons, pour les mettre en location, et en achetant massivement, hein, Blackstone a acheté 200 000 maisons là en quelques années, espère relancer le marché de la maison individuelle et pouvoir vendre avec une plus-value. Là, ce type de fonds, ils sont sur opportunistique, ils ne sont pas là pour encaisser des loyers, quoi. Ils sont là pour changer la valeur, en rachetant très bas, en investissant pour relancer un marché. En France, on ne le connaît pas, puisque l'immobilier, le logement n'est pas « distressed », comme ils disent, les prix continuent de monter, enfin, de manière remarquable, donc on voit mal quand même ces fonds d'investissement venir là, il n'y a pas suffisamment de marge à se faire. Par contre, on peut imaginer que des fonds d'investissement plus plan-plan, se mettent à acquérir du logement, surtout si l'État, à travers son fonds du logement intermédiaire, apporte 25 ans d'exemption de taxes foncières sur la propriété bâtie, la TVA à 10%. Donc il y a quand même des avantages là, qui sont concédés à ces fonds pour faire revenir les gestionnaires d'actifs. Des avantages qui ne sont pas spécifiques à ces fonds, mais qui sont pour tout le logement intermédiaire. Dernier point quand même, Pierre. Ce que je voulais dire par les macro-lots pourrait bien être susceptible d'être des supports d'investissement, c'est que l'on observe en Île-de-France, dans plusieurs cas, des fonds d'investissement qui ne vont pas que sur l'immobilier déjà construit, mais qui prennent le risque du portage foncier. Alors, dans le cadre de ZAC ou pas, même dans des pubs, c'est-à-dire qu'on va plus directement négocier durement avec la collectivité, il y a des fonds d'investissement, et on peut faire l'hypothèse que vu le flot de capitaux qui cherchent à s'investir, le Grand Paris Express et ses gares, certaines de ses gares, pourraient bien se développer à partir de ce type de fonds. On est plutôt dans l'expectative actuellement, mais il y a bien des développements qui marchent comme ça actuellement. Voilà. Oui, j'étais pas clair avant.
Bon. Merci.